Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
What has been your...
Comment abordes-tu les projets de direction artistique qu'on te demande de diriger? Ou pour poser la question un peu différemment, quel est l'ADN que les gens recherchent en t'embauchant? Je pense que c'est grâce à l'approche multidisciplinaire du travail que j'ai fait pendant 14 ans avec A Magazine Curated By, qui a été pour moi une plateforme qui m'a permis de travailler avec des créateurs de mode en tant qu'éditeur invité par le magazine. On sortait un numéro plus ou moins tous les 6 mois, et chaque projet était une intense et profonde analyse de l'univers de chaque designer. Et on choisissait des designers qui avaient des vies très riches en dehors de l'univers de la mode. Ce sont des gens qui faisaient partie de communautés, qui s'inspiraient de choses en dehors de la mode. Un designer, plus que tout autre créateur, est comme une éponge parce qu'il s'inspire du monde autour de lui, de l'architecture, de la photographie, de la sculpture, de la nourriture, des espaces, du sens. Ils se nourrissent vraiment de la culture du mood boarding en s'inspirant tellement du passé que leurs collections deviennent des melting pots de plein de choses différentes. Et donc, quand on édite un numéro avec eux, ils s'inspirent également de différents espaces qu'on distillait souvent en 200 pages. On outrepassait la mode pour s'intéresser directement aux inspirations. Donc, quand les lecteurs ouvraient le magazine, ils pouvaient voir pourquoi Pier Paolo Piccioli, par exemple, utilise ses couleurs dans sa collection de haute couture. Bah, c'est parce qu'il s'inspire de ses tableaux, ou alors pourquoi un designer présente sa collection dans ce genre d'environnement, c'est parce qu'il aime cet architecte. On pensait toujours de cette façon. Et ce processus m'a permis d'entrer en contact avec des univers créatifs très différents, car on allait à la rencontre de ces personnes extraordinaires qui étaient amies avec des créateurs de mode, et on visitait leurs studios, on les interviewait en leur demandant de sortir des sentiers battus et de réaliser des projets créatifs qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. On les rencontrait lors de ces événements, ce qui favorisait ce genre de liens qui sont devenus très importants pour moi aujourd'hui. Quand j'ai eu la chance de sortir du cadre de la mode, tout en étant au centre de ce milieu, ça m'a permis d'activer ces relations de différentes façons. Je pense qu'on m'a demandé de travailler sur Matter & Shape parce qu'il s'agit d'un événement hybride. Il se déroule pendant la Fashion Week, donc au centre de la mode, et on se trouve à 2 minutes à pied du défilé de Christian Dior. On est à proximité de tous les lieux où se déroulent les événements de la mode, que ce soit les showrooms, les défilés, les dîners, ou toutes sortes de choses qui se produisent pendant la Fashion Week. On est au cœur de Paris, ce qui est très différent de beaucoup d'autres événements de design qui se déroulent dans de grands halls d'exposition ou en dehors de la ville, ou qui se déroulent dans de toutes petites galeries auxquelles j'ai la chance d'être souvent invité et que je découvre, mais qui n'ont pas la fréquentation qu'on espère pour Matter & Shape. Ce qui signifie que des milliers et des milliers de personnes verront des choses qui ne se produisent souvent que dans de très petits espaces privilégiés ou qui ne se produisent qu'en dehors de la ville. Et je pense qu'il y a un réel sentiment que ce croisement créera de la nouveauté et que le fait que nous puissions faire appel à des sponsors de la mode et à la communauté de la mode qui, je pense, aime vraiment le design aujourd'hui et qui deviennent de plus en plus à l'aise pour interagir avec la communauté du design et permettre à cette nouvelle relation naturelle de grandir et de prospérer, mais aussi de briser un peu l'algorithme parce que je pense que nous avons encore des œillères. Des œillères qui nous viennent autant des bases de données des relations publiques que de l'algorithme Instagram. Mais toutes ces choses se croisent de plus en plus à mesure que les gens commencent à élargir le vivier d'invités à ces événements, comme les défilés de mode, et à ouvrir l'interaction avec l'espace du design. Je pense que les deux milieux étaient très isolés auparavant et je pense que maintenant, il y a moins de prétention à inviter une personnalité de la mode à interagir avec le design ou à inviter un designer à un défilé de mode. Et c'est ça que nous essayons de favoriser avec Matter & Shape. Donc, ton atout principal, c'est ton réseau. C'est un de mes atouts importants, effectivement, mais il faut savoir activer son réseau intelligemment, sinon il ne sert à rien. Il faut aussi y apporter une histoire, une narration, car c'est un aspect important de chacun de mes projets. Un réseau, c'est génial si tu veux inviter des gens à une fête, mais je pense qu'un réseau doit être utilisé de façon personnalisée et très délicatement. Je ne me suis pas contenté de demander à tout le monde de venir et de me montrer quoi que ce soit dans ce projet. J'ai dû y réfléchir de manière très délicate parce que Matter & Shape, comme je l'ai mentionné, est un événement à caractère commercial. Il ne s'agit pas seulement d'une exposition où je peux inviter tous mes amis à montrer leur dernier travail. C'est un espace où nous cherchons à activer ces relations B2B. Les gens payent pour y exposer leurs œuvres, ils investissent de l'argent pour faire venir des œuvres du monde entier et les vendre. Cet aspect-là est très important. Donc ce n'est pas libre accès, et ce n'est pas non plus une œuvre de charité. Donc avoir un réseau, c'est très important, mais un réseau est quelque chose qui se crée au fil du temps et il faut aussi faire ses preuves dans différents espaces. Les gens me connaissent en tant qu'écrivain et rédacteur, mais ils ne me connaissent pas en tant que personne qui dirige ou consulte pour un salon ou une foire, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est donc un test pour moi et il faut que je reste très respectueux de ces relations et que je les cultive de différentes manières. Et il faut que je montre que ce projet a un espace à Paris et qu'il n'est pas en concurrence avec des choses qui existent déjà. C'est aussi pour ça que le programme de conférences est très important pour moi. C'est aussi pour ça qu'il est important pour moi de faire tomber les barrières à l'entrée, parce que je pense que le monde du design et le monde de la mode sont des endroits extrêmement privilégiés, non seulement pour ceux qui peuvent se permettre de faire des choses, de vendre des choses et d'acheter des choses, mais aussi pour ceux qui ont accès à ces événements. C'est pourquoi l'accès à Matter & Shape est gratuit.